extrait de la BO du film Mystery Train de Jim Jarmusch, qui date de la toute fin des années 80. Vous venez d'entendre Tuesday Night in Memphis de John Lurie, troisième choix de Mathilda Plaincourt, qui est l'invitée de cette émission. Tu as grandi dans un environnement très musical. La musique a eu quel impact sur ta manière de concevoir tes films ?
Bah, je pense que c'est plus large, finalement, comme impact, puisque c'est très lié notamment au travail de mon père. Je pense que la musique fait partie de ma vie depuis toujours. Enfin, j'ai été au rock dans tous ses états. Je sais pas à partir de quel âge mes parents m'ont emmené, mais j'ai toujours été traînée dans ces milieux-là de concerts, d'écouter de la musique à la maison. Et je pense qu'en même temps, j'ai eu besoin aussi de trouver mon endroit, parce que c'est pas évident justement quand t'as un de tes parents qui est une figure aussi locale et qui est présent dans tous ces endroits qui sont aussi des endroits des fois de révolte quand t'es adolescent, de liberté où tu prends tes premières cuites et tout. Bon, bah pour moi c'était quand même un petit peu différent, et je pense que j'ai eu besoin de trouver un endroit à moi, et je pense que le cinéma ça a été cet endroit là aussi d'invention. Et par contre je pense que mes parents m'ont transmis un amour et un rapport quotidien à la musique, et pour moi ça reste une source d'imagination. Il y a des morceaux qui, c'est comme un câlin pour moi, c'est aussi une manière de me connecter aux gens, je pense, d'envoyer des musiques. J'envoie souvent des musiques qui me touchent aux personnes que j'aime. Enfin voilà, je pense que ça fait partie de ma vie à plein d'endroits différents. Et pour le cinéma, je pense qu'il y a eu une certaine exigence. C'est que je me suis dit, je vais pas mettre n'importe quelle musique dans mes films, quoi. En tout cas, ça m'a poussé à une forme d'exigence. Alors bon, là, ma playlist pourra en surprendre certains, mais je pense qu'il y avait ça. En tout cas, quand on a un patrimoine, en tout cas, patrimoine, parce que ma mère, elle écoute beaucoup de musique aussi, mais quand on a ça, cet héritage-là, bon, bah, il y a un peu un truc... où tu vas pas mettre n'importe quoi comme musique de film, quoi.
Question d'une invitée surprise, hein. Cette voix va te sembler familière, et pour cause, on l'écoute.
Coucou Mathilde, c'est Alice. J'ai une question pour toi qui a à voir avec le rapport sensuel aux choses concrètes. Je souhaiterais savoir quelles ont été tes habitudes du quotidien en Normandie qui ont le plus porté ton inspiration, tes fantasmes, dans le cadre de ta pratique en tant que réalisatrice.
J'adore. Trop mignon d'avoir demandé à Alice de faire une question. En plus, elle est très liée. Alice, c'est une copine italienne que j'ai rencontrée à Rouen et qui est très liée aussi à mon film de fin d'études, parce que Noter une sonnée, ça parlait du malaise que ressentaient certains Italiens et Italiennes que j'avais croisés dans le fait de quitter leur pays par des illusions politiques, notamment des gens qui voulaient travailler dans la culture et tout ça, et donc ça partait beaucoup de conversations qu'on avait eues. Alors pour répondre à sa vaste question, je me souviens beaucoup de paysages. Je me souviens beaucoup à Évreux, je me souviens de la promenade de Liton. Je me souviens beaucoup de nager dans la piscine Jean Boin, de beaucoup aller à la piscine. Je me souviens beaucoup de la rue, je me souviens plus de son nom, mais la rue qui mène au Bel et Bas, qui va du centre-ville jusqu'au Bel et Bas, où il y a un peu les belles maisons. Je me souviens que cette rue, elle me paraissait très longue quand on allait au cours de guitare à la MJC. Et c'est drôle parce qu'en revenant à Évreux, ça m'a paru tellement plus petit que dans mes souvenirs. J'étais revenue pour le festival du film d'éducation. Et c'est beaucoup des souvenirs avec mes amis aussi, les souvenirs de fêtes, d'initiation adolescente. Je me souviens pas mal de traîner quand même dans Évreux la nuit, quand on faisait des clips, justement. Alors je sais pas si tout ça sont des sources d'inspiration, c'est plutôt des souvenirs sensoriels que je partage, quoi. Mais je pense que peut-être j'avais une sensation d'ennui et de temps long par moment, qui... peut être lié à l'endroit où on grandit, mais aussi qui fait partie de l'adolescence. Mais je me suis toujours dit que ça m'avait donné de l'imagination aussi, que ça m'avait, je sais pas, que j'avais contemplé pas mal les choses. Mais je pense qu'en tout cas, il y a quand même quelque chose dans tous mes films sur la question de l'eau. C'est sûr qu'il y a eu des rêveries face à des cours d'eau et que les paysages normands en général m'ont marqué. Et que ça reste des endroits que j'ai envie de capter. Et puis aussi les endroits, je sais pas si on dirait de lisière, de marge, en tout cas, pas les cartes postales, quoi. Ça m'a toujours fait envie. C'est pour ça aussi que Palme, on a tourné aux Andelys. Et ça, c'était en discutant avec Jonathan, c'est lui qui m'avait suggéré l'idée. Et c'était une très bonne idée parce qu'en fait, au début, moi, je pensais à Rouen parce que j'étais à Rouen à l'époque. Je nageais beaucoup à la piscine de l'île La Croix. Et en fait, les Andelys, c'était beaucoup plus juste. Il y avait quelque chose dans l'échelle et dans un endroit où on a le temps de s'ennuyer l'été, quoi, qui était intéressant.
Il y a souvent des artistes, que ce soit en musique ou en cinéma ou en littérature, qui me disent que l'ennui, c'est ce qui leur permet d'être créatifs aussi, parce que c'est la place libre pour se remplir d'autres choses. C'est un avis que tu partages, ça?
Mais j'ai eu un énorme débat avec Nicolaos Zafiriou, qui est le chef-op avec qui j'ai fait plusieurs de mes films, bah tous quasiment, ouais. Où lui, il me disait, mais non, mais l'ennui, pour moi, c'est négatif. Si je m'ennuie à un endroit, c'est que je me sens pris au piège. Moi, je pense que la manière dont j'entends l'ennui est plus positive que ça, et qu'effectivement, c'est une sorte de disponibilité de l'esprit. Et que pour arriver à avoir des idées, à écrire, il faut que je me sente disponible, ça c'est sûr. C'est-à-dire que quand je vais mal, je suis pas toujours très disponible à avoir des bonnes idées pour mes scénarios. Quand je me demande comment je vais payer mon loyer, pareil, j'ai pas souvent des bonnes idées. Enfin, je pense que c'est pas pour rien aussi que la création est quand même... Les domaines artistiques sont beaucoup l'apanage des bourgeois, quoi. C'est qu'il faut du temps quand même pour consacrer à ça, à cette rêverie. Et je pense que c'est peut-être que j'entends l'ennui comme un temps disponible, peut-être plus comme une vacance au sens de voilà, j'ai du temps pour que mon esprit vagabonde. Et c'est là que les idées naissent.
On va écouter l'italien avec le titre Mac e Freddo Fa de la chanteuse Nada. Tu voulais nous en toucher deux, trois petits mots?
Bah, c'est une chanson qui nous a porté pendant tout le tournage de ce film. C'était super parce que c'était le moment des confinements en France et nous, on a tourné en Italie et les cafés restaient ouverts en Italie, enfin, selon les zones. Donc, je me souviens qu'on a rebu des cafés en terrasse pour la première fois au moment de ce tournage et c'était quand même vraiment incroyable. On a fait la fête avec des gens, enfin, il y avait d'un coup une vie qui reprenait, qui a porté, je pense, le tournage. Et c'est Martina Nuzzi, l'actrice qui joue le personnage de l'italienne de Pia dans le film, qui nous avait fait découvrir cette chanson. Et moi, ça reste un souvenir qui est très lié à elle. Et c'était une super découverte qu'on a continué à réécouter très souvent en soirée après avec mes copaines de la Cinéfabrique. Donc c'est un titre que j'aime beaucoup.
La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Oh, di amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa.
La chanson que vous venez d'entendre date de la toute fin des années 60. Elle s'appelle Ma che freddo fa et elle est interprétée par la chanteuse italienne Nada. C'est un des choix de Mathilde Aplincourt pour ce soir. Question d'un invité surprise cette fois-ci. Alors une voix qui te semblera au moins aussi familière que celle d'Alice.
Ma question est, est-ce que tu te sens libre quand tu fais du cinéma?
C'est des questions surprises philosophiques. Hein.
Tu as reconnu cette voix très familière.
C'est mon père, c'est Jean-Christophe Aplincourt. Bah ouais, carrément, je me sens libre et je pense que le cinéma est une manière pour moi de mener une vie libre, aussi. Parce qu'il y a plein d'endroits de contraintes d'en faire des films. Pour arriver à fabriquer un film qui soit projeté dans un cinéma, c'est un parcours du combattant, et vu la conjoncture actuelle, dirais-je, ça va être de plus en plus dur, en tout cas, de faire des films indépendants et libres. Mais oui, je pense que c'est ma manière à moi de vivre une vie libre, et que quand j'écris un film, quand je me lance dedans, c'est comme une aventure, c'est comme je descends dans une grotte avec une lampe torche et je vais voir ce que j'y trouve, quoi. Souvent je descends dans la grotte parce que je me pose une question. Pour continuer à être philosophique, c'est la caverne de Platon. Mais en vrai, c'est ça, c'est que il y a quelque chose dans le rapport à l'inconscient. Je pense c'est que le monde m'interroge, et moi, en tant que être humaine sur la Terre aujourd'hui, il y a quelque chose qui me titille, qui me pose question. Et alors, j'ai envie de poser cette question à mes contemporains, contemporaines, en faisant un film. Donc j'explore cette arène, ce domaine. Je rencontre des personnages. Et mon objectif, c'est de découvrir quelque chose en faisant un film, et que ça résonne avec les spectateurs et les spectatrices qui vont voir le film ensuite. Que nos vécus d'humains résonnent les uns avec les autres, quoi. C'est une manière de communiquer, je pense.
On poursuit avec une deuxième chanteuse italienne pour cette soirée. Tu me gâtes, hein, moi qui suis ritalo-français. Elle s'appelle Maria Violenta. C'est Crying Over You que t'as choisi de faire entrer dans les foyers de celles et ceux qui écoutent cette émission et dont je te laisse nous parler.
Et ça, c'est l'amie productrice du film quand on était à la Cinéfabrique, Maya Brodick, qui m'a fait découvrir Maria Violenta parce que je cherchais des musiques pour le film. Et en fait, souvent... Je fonctionne en faisant une playlist quand j'écris un film, parce que souvent j'écoute de la musique en écrivant. Et puis cette playlist, finalement, est devenue une sorte de playlist de référence pour ensuite composer la musique des films. Et donc j'ai vraiment écouté Maria Violenta en long, en large, en travers au moment où je développais le film. Et donc ça a été assez évident de mettre ces musiques dedans. Et on est même allé la voir en concert. Elle est passée à Rouen avec Siloé, l'autre actrice, Siloé Saint-Pierre, l'autre actrice de Noter une sonnée. Et c'était super, c'était très heureux de la voir en live. C'est une musicienne incroyable parce qu'elle Elle a un côté sorcière qui bricole tout, toute seule. Et bon, je la trouve très forte et très touchante, quoi.
Palerme, au lieu de l'Inquisition sicilienne, vous venez d'écouter Crying Over You de Maria Violenza. Elle traduit la souffrance par des mélodies punk et synthétiques. Je cite une de tes déclarations. J'essaye toujours d'imaginer un petit pas de côté par rapport au destin qu'on projette sur un personnage, par rapport à la norme imposée. Ça doit être subversif, l'art, pour toi ? Un besoin de naviguer à contre-courant de la norme ?
Bonne question. Bah, en tout cas, ça doit nous surprendre. Et je trouve ça intéressant de déjouer les attentes qu'on projette sur des personnages. En tout cas, la norme m'interroge beaucoup. Et je pense que il faut la remettre en question pour mener une vie libre, justement. Il faut choisir ce qu'on prend de la norme. Après, je pense qu'il y a plein de normes différentes, qu'on se sent pas enfermé par les mêmes normes. Mais oui, je pense que l'art, en tout cas, doit nous interroger et nous surprendre.
Alors, les personnages féminins sont souvent à l'honneur dans tes films. Qu'est-ce que tu aimes capter dans les personnages féminins de tes récits ?
Bah, une quête de liberté, sans doute. Mais tout m'intéresse, je pense. En fait, je pense que Palm, comme c'était mon premier film, il y avait une sorte de pudeur. Enfin, en tout cas, j'avais pas envie que les gens disent « Ah oui, ton personnage principal, c'est toi ». Et donc, j'ai choisi un personnage de garçon parce que ça m'intéressait la distanciation qu'il pourrait opérer. Alors, je dis pas que j'écrirai plus jamais de personnage d'homme et que je pense que ça m'intéresse, mais que je pense que y a tellement à faire autour de personnages féminins, autour de personnages non-binaires, queer en général. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'histoires qui n'ont pas été racontées. Que j'aurais pas assez d'une vie pour raconter ces personnages-là.
Alors on va repartir en musique avec Victor Goubet, alias Lesneux. T'as choisi le titre « C'est beau aussi, la lune, le jour ». Deux, trois petits mots aussi là-dessus.
Donc là, on passe à un nouveau film. C'est « L'été des sœurs Tempête », un documentaire de 52 minutes. Je pense que forte de mon expérience... en tout cas de ma découverte Maria Violanza, j'ai cherché, pour faire la musique du film, j'ai cherché un musicien dont l'univers résonnait avec le film. Et je ne sais plus exactement comment je suis tombée sur Lesneux. Je pense que je cherchais aussi quelqu'un qui était en Bretagne, parce que Lesneux, c'est pour Lesneuven. Et donc ça, c'est... un endroit dans le Finistère, quoi. C'était vraiment un Breton qui faisait sa musique en Bretagne, et ça me plaisait beaucoup, puisque le film était sur une nouvelle région, donc une nouvelle exploration. Et je pense que la mélancolie de cet album et de ce morceau-là, elle entrait directement en résonance avec notamment le personnage de Marie dans le film, qui est ma grand-mère paternelle. Mais voilà, je me suis dit que c'était la musique du film, et c'est aussi parce que je cherchais à... Enfin, on verra plus tard dans le film, il y a des chansons qui sont les chansons de mes personnages. Enfin, en tout cas, je voulais qu'il y ait un peu l'ambiance musicale, disons la playlist de Marie et Kiki. Mais c'était important aussi qu'il y ait moi, ma culture musicale, et je pense que Lesneux correspondait plus à ma culture musicale à moi. Et c'était super de travailler avec Victor. Je suis allée une journée dans son studio à Lesneuvin, et on a travaillé sur mesure. On a fait d'abord des allers-retours en montage, et ensuite on a travaillé sur mesure sur le morceau final. C'était une super expérience. Il y a quand même aussi, petite parenthèse, mais Sylvain Choignet, qui était déjà là pour noter une sonnée, qui nous a aussi dépanné pour en nous donnant deux titres de un peu rock blues qui servaient un peu à rythmer le road trip. Donc ça, c'était super, ça nous a bien aidé pour le film aussi, quoi.
Thank you.
Vous venez d'entendre à l'instant C'est beau aussi la lune le jour du chanteur Les Sneux. C'était le cinquième choix de Mathilde Aplincourt qui est à mes côtés tout au long de cette émission. Avec l'été des sorts tempêtes, tu passes à un format de 52 minutes. Ça a été difficile ça de passer de format court pour Palme par exemple à un format documentaire de 50 minutes.
Donc l'été des sœurs tempêtes, ce qui changeait beaucoup, c'était que c'était un documentaire déjà. Il y a se confronter à la vie, à des, moi je dis personnages de documentaire, mais c'est pas du tout la même pratique que la fiction. On est moins nombreux aussi et nombreuses là. J'étais avec Valentine Jelin en ingé son, qui était vraiment formidable pendant le tournage, et c'est moi qui faisais l'image la plupart du temps. Et puis il y a Nicolas Ozafiriou qui nous a rejoint pour les séquences ruling. Mais